Bonsoir à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court. Ce soir, Sing Sing et Héloïse de Caz pour Alt.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Art, Sing Sing et Héloïse de Caz.
Je me souviens que déjà, sur votre disque Diablerie, sorti en 2015, le soleil faisait des bonds sur les nuques et son jeu mauvais énervait à mort. Mais c'était la promesse d'une nudité à venir, et la voilà. Le voilà, votre nouveau disque, Alt, où les verbes se conjuguent au singulier du pluriel. J'avions, tu avions, nous avions des enfances rebondissantes, tournoyantes et pas faciles à atteindre. Enfance de l'art, de la musique, de l'amour, il faut du temps et de l'espace pour les voir venir. Et pour ce faire, vous élargissez le cercle, les cercles, encore et encore. Les musiciens Moqueux et Clément Vercelletto, mais aussi Claire Vaillé, Bertrand Belin, Ernest Bergès, Léonore Boulanger, vous rejoignent pour faire scintiller le soleil enculé. C'est le titre de cet album, enregistré à Thiers, qui sort sur Objet Disque et Muraille Musique. Bonsoir Héloïse de Caz.
Bonsoir.
Bonsoir Sing Sing.
Bonsoir Marie.
Soyez les bienvenus. Vous serez en concert à Nantes le 21 novembre, le 27 novembre à Lille au Café Bulle, le 29 novembre au Grand Zéro à Lyon, le 28 novembre au Petit Bain à Paris, le 5 décembre en première partie de Bertrand Belin au Casino de Paris. À Paris. Et le 13 décembre, en première partie de la Grande Brigitte Fontaine à Laval. Donc si vous voulez bien, on commence par elle.
Retrouver la magie et le sacré me semble effectivement important. Parce qu'autrement, c'est un peu ennuyeux. Et puis, c'est un peu inhabité, déserté, dessalé, dépoivré, dépigmenté. Mais bon, on n'est plus en l'an 1000. Alors, bon, je ne regrette pas parce que l'humeur nostalgique me paraît pas très désirable. Mais effectivement, très longtemps j'ai appelé le passé, je disais toujours, le passé crasseux. Alors, je ne suis pas nostalgique. Ni de mon passé, ni du passé de l'humanité en général. Je n'aurais pas souhaité vivre dans une autre époque que la nôtre. Et je suppose que nous sommes des espèces de pionniers du temps qui avançons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et jamais cette seconde n'a été vécue par personne. Et ni celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci. Et je trouve que, ça donne de l'allant.
Thank you.
En tout cas, quand la chanson a commencé, immédiatement, vos têtes ont bougé.
Oui.
Mais c'est quand même bon signe, non?
Oui.
c'est vrai, moi aussi je me suis dit ça. Généralement, j'ose pas trop regarder les invités quand partent les archives et les musiques. Comme ça, je trouve que c'est un moment très intimidant. Donc j'ai relevé un peu les yeux. Et je vous ai vu vraiment danser de la tête tous les deux, comme ça, de manière très joyeuse. C'est signe de quoi, Héloïse?
On est content. Ah, je me disais, ouais, c'est super.
C'est signe de quoi, Simsim?
Je crois que ça, je sais pas, certainement, on se laisse. On est dans la joie là de découvrir ce disque, de le voir éclore réellement. Et c'est toujours émouvant. Et je crois qu'aussi, comme c'est un disque qui est moins intimiste que les précédents, et j'imagine qu'on va en parler, mais d'avoir rassembler tout ce qu'on appelle cette meute autour de nous. Je crois qu'il y a aussi cette espèce de plaisir, ce plaisir à nous entendre entourés plus que jamais, qui donne cette espèce de dynamique d'allégresse.
C'est ça qui saute aux oreilles quand la musique commence, et l'impression d'être nombreux, d'être plusieurs, l'impression, la certitude ou le savoir d'ailleurs.
Et puis il y a l'instant même qui revient parce que ça a été une improvisation. Et donc il y a l'espace, les gens, le moment. Moi j'ai le souvenir de tout qui revient à la première note.
Ouais. Ce morceau-là, c'était une improvisation?
Oui. Enfin, il y avait le texte et une grille d'accords qui préexistaient, mais qui a été ensuite laissée à la discrétion, à l'inspiration de tout le groupe. Et donc,
une part improvisée, on va dire.
Une part improvisée, oui. On savait pas tellement où on allait. On a gardé la prise qui nous paraissait la plus stimulante.
Mais du coup, ça a été un super moment de jeu. Parce que ça, c'est aussi quelque chose, en tout cas, moi, que j'ai ressenti souvent dans l'enregistrement du disque, et à la réécoute, ça revient, c'est le jeu. Le sens du jeu et l'espace de jeu qu'on a, je pense, trouvé.
Qu'est-ce qui revient comme image, par exemple, lorsque vous écoutez ça, hein, quand les premières notes, vous dites tout revient de l'instant même, Héloïse Decaze, alors il revient quoi, par exemple?
En vrac, de la laine, une cabane, de la lumière, des volets, une espèce d'innommable bordel, disons-le, comme on est dans le gros mot.
On est plus à ça près, oui.
Et c'est tout.
Pourtant, je me dis qu'il ne faut pas être que bordélique pour faire de la musique comme ça.
Non, mais nous, on a... En fait, j'ai un peu les mêmes images qu'Héloïse parce que on a transformé le studio, était une espèce de gigantesque grenier d'enfants. On a renversé des fauteuils sur les amplis parce qu'on jouait tous dans la même pièce pour cloisonner le son et tout ça. Mais nous, on a foutu le bordel dans notre chambre et c'est Ernest qui est aux manettes, qui enregistre et qui mixe après, qui a sa charge de ranger derrière nous.
Ça passe par quoi, par exemple, si on rentre un tout petit peu dans la technique, qu'est-ce qui dans un mix? Qu'est-ce qui, dans ce geste-là, qui peut être un vrai, profond geste artistique, revient à ranger la chambre?
C'est que, en fait, ce disque, je crois qu'on n'est jamais allé aussi loin dans le mélange de naturalisme d'enregistrement et d'artifice. C'est pour ça qu'on s'est adressé à Ernest, qui est un des garçons qui a le plus de talent à ce niveau-là, à mon avis, en ce moment. Moi, je suis très, très frappé par son travail sous le nom de Sourdure qu'il fait. Et lui, il parlait beaucoup de maraboutage, ce qui nous plaît bien. Et comment il range après, je sais pas, c'est son petit laboratoire à lui, mais c'est, quand je parle de mélange de naturalisme et d'artifice, c'est beaucoup de prises live où on improvise ensemble, où on cherche ensemble, et lui collecte ces prises live et les monte ensemble, crée des ponts, des passages secrets entre les différentes prises pour arriver à cette impression, qui garde cette impression de live, mais qui est pleine de boutures, de formules magiques et de souterrain dont il est le seul à avoir la clé.
Vous parliez de l'instant de jeu ou l'espace de jeu que vous avez peut-être trouvé, un espace ou un jeu un peu inédit, Héloïse Decaze. Et dans la voix de Brigitte Fontaine, parce qu'on peut peut-être revenir sur cette archive-là de 1996, elle dit « En fait, c'est la conscience que cette seconde n'a pas jamais été vécue par nous et par personne d'autre, ni cette seconde-là, ni cette seconde-là, ni cet instant même-là, que c'est de cela que naît l'élan. » Est-ce que vous sauriez dire dans quel élan est né ce disque-là, Soleil enculé? C'était un élan de quoi?
C'était un élan de retrouvailles parce que ça faisait longtemps qu'on avait le dernier disque date de 2015 comme vous l'avez précisé tout à l'heure.
C'était un élan de titre aussi. Parce que ce titre-là, ça faisait quelques années qu'on jouait avec un peu genre chiche. Et là on se dit OK, on enregistre un disque. Ça sera Soleil Enculé.
Et avant toute chose, c'était Soleil Enculé. C'est-à-dire que c'est aussi le mot d'ordre des retrouvailles, quoi, Soleil Enculé.
Ouais,
ça a initié des choses.
Un cri de joie et un cri au soleil, on s'est dit.
Et c'était
pas.
Et moi, j'ai tout de suite trouvé ce titre très enfantin. Donc, alors, on parle beaucoup de retour à l'enfance pour ce disque, et pour moi.
Pas moi.
Non. Mais c'est de notre faute, hein, c'est moi qui ai commencé à en parler. Et je me disais justement, c'est pour ça que je suis particulièrement frappé par l'archive de Brigitte Fontaine, qui parle du temps, parce que je me suis rendu compte l'autre jour, en essayant de formuler des choses sur ce disque, que c'était un disque sur le temps réversible, en fait.
Ouais, mais complètement. C'est pour ça que j'ai dit des enfants, ça a atteindre. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un retour vers l'enfance,
exactement.
C'est une actualisation de ça.
Ouais, et c'est un territoire qui est devant. Et c'était l'idée parce que qui a dominé l'écriture en tout cas du disque. On ne savait pas encore quel son il allait avoir, qu'est-ce qu'on allait en faire. Mais en tout cas, quand on s'est mis à écrire les chansons, l'idée c'était de retrouver, mais de tendre à une espèce d'enfance que moi je considère comme un outil de connaissance psychédélique du monde. Et comme la preuve d'un temps réversible. Donc je suis très content d'avoir entendu les propos de Brigitte Fontaine.
Qui dit que surtout elle n'est pas nostalgique aussi.
Moi j'ai une image qui me vient en même temps qui m'est venue pendant que Brigitte Fontaine parlait, mais là aussi par rapport à l'élan et au titre, c'est quand on est enfant et qu'on pédale très 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 vite en fermant les yeux, sans savoir où on va, et après il y a l'élan du vélo, du tricycle.
Du vélo qui part dans le précipice.
Et je pensais aussi à ça par rapport à. Bah, moi, il y a eu quelque chose de ça avec ce désir de disque et ce soleil enculé. Et de se dire, on va donner un grand, grand, grand coup et on va voir où ça nous mène. Et voilà.
Ça veut dire quoi, jouer pendant un certain temps avec un titre? Sans n'en rien faire vraiment, Héloïse Ducas, ça veut dire quoi? Vous vous envoyez des textos avec Soleil Enculé, vous vous retrouvez,
non,
vous dites Soleil Enculé,
texto,
vous faites quoi?
Non, mais moi il me semblait que c'était plusieurs disques, mais je crois que le précédent, celui d'avant, il y en a eu un qui, dans ses tout prémices, a eu ce titre-là.
Mais c'était le titre de chantier de Diablerie déjà, Soleil Enculé. Et on a. Et en fait, Diablerie, une fois les chansons écrites, Diablerie, il convenait mieux. Et Soleil Enculé ne se justifiait que par.
Nu comme la main.
Nu comme la main, qui évoquait le soleil déjà.
Et on avait eu ça aussi avec. C'est à chaque fois des histoires pour chaque album avec les titres. Parce que La Langue, le tout premier album, le titre était venu bien après. Feu la figure, je crois que ça a été un peu simultané. Et Patate de vivre, qui est ce disque qu'on a fait avec ces collégiens formidables. Et ben, c'était aussi c'est resté pas dans les tiroirs parce que c'était plus dans la poche. Mais Patate de vivre, on l'a eu dans la poche pendant, comme un petit caillou comme ça, qu'on triturait. On l'a eu pendant quelques années. Et quand le disque s'est fait avec les enfants, on s'est dit, bah, c'est lui, c'est Patate de vivre.
Ah, tu m'étonnes, Patate de vivre pour ce disque-là.
Les titres cherchent et attendent leur disque.
Et donc là, ça veut dire que vous avez éventuellement des petits titres comme des cailloux dans les poches, quoi.
Ouais, ouais. Moqueux, ça fait 2-3 disques que Moqueux veut appeler un album casse-croûte, mais pour l'instant, il n'est pas encore.
Il a qu'à appeler les siens casse-croûte, d'une certaine manière. J'aimerais bien que peut-être, puisque vous en parlez, Héloïse Ducas, on dise 2-3 mots de cette expérience-là, Patate de vivre et du travail fait avec ses collégiens, parce que quand même, en écoutant moi ce disque-là, Soleil Enculé, j'ai pensé à ces chansons, j'ai pensé aussi à ce bestiaire-là, à l'espèce de vocabulaire que vous créez, avec lequel vous travaillez de disque en disque. Est-ce que ça a amené quelque chose? Est-ce que ça a conforté quelque chose de travailler avec ces collégiens?
Amené, ça c'est sûr. Conforté, oui, ça a déplacé aussi des choses, mais ça a été une expérience formidable. On était invités par le dispositif In Situ, qui est un dispositif dans le 93. L'invitation était vraiment, c'est un dispositif génial. Et les gens qui nous ont accompagnés étaient formidables.
C'est des résidences d'artistes en Seine-Saint-Denis dans des collèges.
Ouais. Et on a eu la chance de tomber déjà dans un collège super. La professeure référente, qui était la professeure de français, j'ai oublié bien sûr, c'était il y a 3 ans ou 4, donc vu la mémoire.
Mais elle était super.
Elle était formidable. et les collégiens avec qui on a travaillé. D'ailleurs, le disque s'appelle... Enfin, c'est Patate de vivre, mais c'est Arlt et les artistes d'enfance. Ça a été vraiment une rencontre avec, je sais plus exactement combien ils étaient, mais une trentaine d'artistes, et pas d'artistes en herbe, d'artistes point.
Ouais. On leur a rien enseigné, on a appris autant. J'enfonce une porte ouverte en disant
ça. Mais ça fait toujours du bien de leur dire à propos des collégiens.
Ouais, et ils nous ont appris énormément de choses, et je pense qu'il y a un geste de spontanéité une spontanéité, une verdeur qu'on a pu retrouver à leur contact, et une façon de conceptualiser les choses aussi qu'ils ont. En fait, on n'est pas seulement allé chercher des petits animaux spontanés, instinctifs et naïfs. On a aussi eu affaire à des façons de penser, d'articuler des pensées voluptueusement. Mmh. On se l'est pas formulé sur le coup, mais maintenant là qu'on en parle, je me dis qu'effectivement, dans Soleil enculé, il y a quelque chose de cette façon d'articuler des pensées avec sauvagerie et avec volupté qui nous est resté de cette expérience-là avec ces gosses. Ouais.
Notamment ce que vous disiez, Sing Sing, du tissu retourné ou du gant retourné, de ce que ça donne comme manière de penser différemment. Je voudrais qu'on revienne encore un instant sur l'archive de Brigitte Fontaine, où elle parle du temps, elle parle du passé crasseux, de la non-nostalgie, de la seconde qui se répète et qui est neuve et qui nous fait irrémédiablement neuf. Et le temps, il en est beaucoup question dans ces chansons-là, de plein de manières différentes. Mais est-ce que vous diriez que c'est un album qui se pose cette question-là ?
Qui se pose la question du temps ?
Ouais, tout compris, musicalement, amoureusement, artistiquement, soleillement.
Assurément, je crois que le temps est le sujet du disque et que l'enfance est sa matière. Mais je me suis pas posé la question en l'écrivant. Mais comme souvent, en fait, c'est le disque, une fois terminé, nous renseigne sur ce qu'il avait à dire. C'est pas nous qui avons quelque chose à dire, c'est le disque qui finit par le dire, par l'agencement un peu bordélique de tous les éléments qu'on y met. Donc c'est-à-dire que moi, je suis parti pour parler d'enfance et je me suis mis à parler de ce temps réversible finalement. Quoi. Et l'enfance, ouais, c'est une matière plus qu'un sujet.
Le temps comme sujet et l'enfance comme matière, Héloïse Decazes. Vous signez ou pas?
Ah oui, je signe.
Gentil.
C'est super ce que tu te dis.
Ah, ça tombe bien. Vous avez bien fait de venir.
Je suis fasciné par le rythmique, par le rythme. Comme compositeur, c'est le rythme qui me donne l'impulse de faire des choses. Je réalise ça plus en plus. C'est vrai que j'aime les sons, et puis les textures, et puis mélodies, et puis ça. Mais rythmique, ça, c'est le cœur de tout. Un des moments les plus fiers de ma vie, c'est qu'il y avait une interview avec Miles Davis par Jazz Mag dans les années 80, oh non, 90 même. Et puis, ils ont demandé à Miles... Qui fait battre ton cœur? Et il a dit, Fred Frith, c'est un grand batteur. Et alors, le rédacteur de Jazz Mag a dit, non, c'est pas possible, il y a un guitariste, il faut lui téléphoner pour vérifier qu'il a dit. Et puis, donc, le pauvre intervieweur a téléphoné à Miles pour dire, oh, c'est vrai, est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Alors, ça m'a dit quelque chose. C'est que je suis batteur. C'est n'importe l'instrument. C'est très physique, peut-être c'est une manière de ressentir les choses dans le corps, parce que le corps, c'est le centre de la musique, toujours, évidemment. Et je pense que c'est avec le rythme que le corps s'exprime le plus directement.
Et pour qui a déjà vu Fred Frith jouer, ou bien en solo, ou bien en formation plurielle, on ne peut pas mentir et ne pas être d'accord sur l'idée que c'est un batteur, quel que soit l'instrument qu'il utilise. Il était venu ici à Par les temps qui courent en 2019. Tout commence par le rythme, pour lui. Quand on écoute votre musique, il y a un moment donné... D'autant plus qu'il ne cesse d'être question de début, de commencement, où on a envie de savoir d'où ça vient. Alors ça commence comment, ces chansons de Soleil enculé?
C'est-à-dire, ça commence comment?
Bah, on a envie de dire, c'est quoi le commencement? C'est quoi le début? Qu'est-ce qui engendre ces chansons-là?
Bah, c'est effectivement un rythme et une image qui, pour moi, sont très liées. C'est-à-dire que l'image est toujours rythmique. C'est-à-dire que chaque phrase qu'ils ont, parce que c'est pas des chansons à texte, hein, comme on a pu s'en rendre compte.
Ça se discute.
Et ouais, donc, disons que ce sont pas des textes
longs
et très profus. Je considère chaque vers, chaque phrase comme à la fois une formule incantatoire, comme un riff en soi et comme un rythme en soi. C'est pour ça que ça a été assez long dans le groupe d'intégrer quelqu'un à charge des percussions, parce que tout dans la façon de marteler les textes, dans ma façon de jouer de la guitare, etc., impose déjà une espèce de rythme.
Et est intérieur, du coup.
Complètement, oui. Mais dont je saurais pas parler de façon très très précise, mais ça laisse très peu de place a priori à un batteur ou un percussionniste, et tout en étant, parce que moi j'ai une façon de jouer les guitares qui est très têtue et très je joue de la pioche, en fait je pioche dans la chanson. Je casse des cailloux, quoi. Je m'éloigne complètement de la question, pardon.
Non, pas du tout, j'ai l'impression qu'on est au cœur du truc.
Donc ça naît toujours de choses différentes, mais d'une image qui est à la fois un rythme et une incantation, et autour de laquelle on va ensemble, Héloïse et moi, puis Moqueux, et Héloïse et moi, puis à présent Clément, Moqueux, Héloïse et moi, broder, tisser, qu'on va... À la fin d'une chanson, c'est un rythme pur et avec des guirlandes colorées et clignotantes bazardées partout dessus, quoi.
Comment vous faites pour entrer là-dedans, Héloïse Decaze?
Bah, c'est une bonne question.
Non, parce que c'est vrai, à la fois du point de vue de l'écriture, quand on entend comment c'est composé, y compris les lignes mélodiques, on se dit comment on fait pour rejoindre quelqu'un à cet endroit-là.
C'est une bonne question.
Bah, il y a encore de la place au moment où... Moi, j'arrive avec... Je te laisse la parole tout de suite, mais j'arrive avec vraiment un embryon. J'arrive avec une mélodie pas encore tout à fait esquissée. Un texte qui est encore meuble, c'est-à-dire sur lequel Héloïse peut intervenir et dire ce mot-là, elle m'emmerde. Ou j'ai plusieurs propositions et parmi lesquelles elle va choisir la formulation qui lui convient le mieux. Donc, c'est encore accueillant.
Bon, on va voir ce qu'elle en dit.
Qu'est-ce qu'elle va en dire?
Ne réponds pas.
Non, l'image qui vient, parce que t'étais sur la pioche. Moi, j'ai des images et pas forcément des réponses. Et je pense à ça parce que je repense à ma réponse, pardon, je fais une espèce de retour en arrière, mais sur le moment de l'enregistrement, et je me disais, ah oui, ma mémoire, c'est vraiment... tout me passe par les yeux. Quand je me rappelle, c'est les yeux, alors qu'on a enregistré un disque, mais c'est mes yeux qui parlent. Et là, du coup, je t'écoute attentivement. Donc j'ai la pioche et je me rappelle vraiment de ce soir-là où tu m'as dit, j'ai écrit 8 chansons, je crois qu'elles sont venues d'un coup. Et donc avec cette image de la pioche, j'ai vraiment le sentiment que t'as déterré des cailloux. Et qu'après, alors je ne sais pas si l'image parlera, moi elle me parle, je les mets en bouche. On se les donne à goûter. Mais c'est, donc il n'y a pas vraiment de ma part une, enfin, le premier geste, c'est les mettre en bouche, les chanter. Du coup, elles prennent de moi et les choses apparaissent. Et après, une fois qu'elles nous apparaissent à l'extérieur de nous, on en discute un peu, on affine, on agence. Mais la première chose, c'est vraiment, et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup fait, c'est savoir ce que ça raconte.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, quand j'écris, du coup, je peux rebondir là-dessus aussi, parce que j'ai toujours l'impression que de tendre un langage comestible, effectivement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on profère quelque chose, on a toujours l'impression qu'on le projette devant soi, mais dans le même mouvement, toujours cette histoire de réversibilité, j'ai l'impression que le langage est quelque chose dans lequel on mord et qu'on mâche. Et moi, à chaque fois que je chante avec Héloïse, j'ai l'impression de mordre dans un grand langage et de le mastiquer, ce qui nous déforme et nous donne des visions. C'est un stupéfiant très puissant, le langage.
C'est pour ça qu'on articule mal, c'est qu'on a la bouche pleine.
Mais vous articulez très bien, messieurs dames.
Le langage est un gros peyote géant dans lequel on mord et qu'on a mastiqué. Et voilà, voilà les chansons de Arlt.
Mais alors du coup, c'est intéressant de parler du fait que plus ça va, plus vous êtes nombreux, parce que ça veut dire que cette nourriture-là, elle devient de plus en plus comestible ou de plus en plus partageable. Vous voyez ce que vous voulez. Tout à l'heure, vous disiez Sing Sing. Finalement, au départ, il y a peu de place pour un batteur. C'est difficile de faire entrer un percussionniste quand l'écriture et la composition même est un rythme, et ce rythme-là est à l'intérieur de moi. Alors comment on fait pour donner entre guillemets la possibilité ou la responsabilité à quelqu'un d'amener du rythme, quoi, ou d'être ce rythme-là?
Bah là, je le désire. Le désir, ouais.
Et on fait la place.
C'est ça, on fait la place. On essaye de faire la place, en tout cas. Peut-être que si Clément Emoqueux était avec nous, il nous dirait tu parles quand on nous met la place. Mais
moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça qui s'est passé, et ça, c'est venu très tôt. On s'est dit, on va. Là, il faut ouvrir. Ça aura pas de sens sinon. Donc, on va ouvrir ce disque et on va ouvrir cette musique. Et pourtant, je pense que les origines, tout est semblable et tout est différent. Et voilà, il y a eu Moqueux, il y a Clément, mais il y a aussi, donc, oui, avant il y avait Thomas, mais là, sur le disque, il y a une chorale, il y a Léonore Boulanger, Marion Cousin, Jean-Daniel Boutard, Charline Dinut, enfin, c'était vraiment un désir. Et on s'est dit aussi, parce que ce désir, on l'avait déjà eu, et finalement, sur les enregistrements, pardon, messieurs, mesdames, on avait toujours finalement été presque que nous. Et là, je me rappelle de discussions qu'on a eues, où on s'est dit, oui, peut-être, là, c'est pas nécessaire. Et on s'est dit, non, il n'est pas question que ce soit nécessaire ou pas. Et c'est une
invitation. Il faut qu'on soit plusieurs, en fait.
Ouais, on le désire, on le veut, on invite.
On a
fait une fête.
Bravo.
On pourrait aller du côté des impurs, si j'ose dire, et du côté de Proust, qui, vous savez, disait que l'amitié n'existe pas. Que l'amitié est un pseudo-sentiment. Il y a les êtres qu'on aime, les êtres qu'on n'aime pas. Enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais qu'il n'y ait qu'un amour, et que cela explique justement le drame du frère et de la sœur, le drame de
la mère et du fils.
De la mère et du fils, de l'ami et de l'ami, avec un nœud et sans eux, n'est-ce pas?
Oui.
C'est terminal. Eh bien, ce sont des sujets extrêmement délicats, extrêmement scabreux, qu'il est très difficile de traiter, même la plus mal à main et encore plus cher habit devant le micro, parce que cela touche à des abîmes, et que, après, depuis qu'il y a des hommes et qui écrivent, on a le sentiment, non pas que tout a été dit, comme l'a écrit la Bruyère, mais qu'au contraire, rien n'a été dit, ou si vous voulez, presque rien n'a été dit, que tous les sujets, et tous ces sujets-là, sont encore à traiter.
France Culture, par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Arlt, Sing Sing et Héloïse Decazes.
Thank you.
nous aura pris du temps et presque tout autant pour arriver frères et sœurs.
Alors vous nous racontiez que vous aviez fait une fête pour enregistrer ce disque qu'on vient de faire, nous aussi une petite fête dans le studio. Juste avant Frères et Sœurs, un extrait, la première chanson de Soleil Enculé, il y avait une archive de François Mauriac en 1952, dire dans une voix incroyable, venue vraiment non seulement des archives de l'INA, mais d'un espèce d'au-delà chuchoté, qu'il n'y a qu'un seul amour, que c'est cela le drame, et que c'est ce qui plonge dans les abîmes de le dire, de dire d'autres formes d'amour que celui auquel on pense habituellement. Cette chanson qui ouvre le disque dit ça quand même. En tout cas, dit qu'il va être aussi question de ça, du temps comme sujet, de l'enfance comme matière, et de quoi d'autre ?
De la métamorphose. C'est vraiment, je crois que c'est un disque qui est traversé par, qui est hanté par l'idée de métamorphose.
Ouais.
Et musicalement, notamment. Et c'est-à-dire qu'une chanson, comment, pour être répétitive, n'en commence pas moins toujours sur une humeur et sur une couleur appelée à se saturer, à se tordre, à se gondoler. Et vraiment, quand je parle de métamorphose, je parle vraiment de métamorphose au sens virgilien du terme. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que l'amour se transforme en fraternité, sororité, que le bonhomme et la bonne femme qui chantent deviennent des animaux. Et à chaque fois que j'entends ce disque, j'ai l'impression d'entendre le moment et d'entendre l'espace de la transformation des choses. Enfin, moi, je le délire comme ça.
Mais à chaque fois, ça nous redit, parce qu'il est quand même beaucoup question de ça. Hier, par exemple, Nastasia Martin parlait de son livre « Croire aux fauves » et vraiment, elle le dédicace aux aides de la métamorphose, ici ou ailleurs. Et cette question de la détransformation, des transitions, des hybridations, qu'il s'agisse des êtres et des musiques, est au cœur de beaucoup d'œuvres et beaucoup de pensées des gens qui viennent parler ici. Et à chaque fois, c'est toujours... le lieu de la joie, c'est toujours le lieu de la complexité, mais c'est toujours le lieu de la joie.
Je crois que c'est le mouvement, la joie, la métamorphose est du mouvement, c'est qu'on a l'impression, au départ de toute œuvre aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une hébétude et une forme de pétoche généralisée d'un monde appelé à disparaître, nous promettons. Moi, j'ai envie d'envisager aussi... le monde dans sa transformation permanente, c'est ce qui le rend incessamment vivant parce que mobile. Oui, ça part. On le disait déjà il y a longtemps avec la chanson Après quoi nous avons ri, nous en avons pris peur, qui n'en aurait pas pris peur, après quoi nous avons ri. On commence par flipper et puis on finit par
rigoler,
par être avoir l'euphorie de la métamorphose. Ouais.
Ouais, c'est très beau de la relier à cette chanson-là, Après quoi nous avons ri, qui était sur la rouille, qui était sur la langue, pardon.
Sur la langue.
Et qui est une chanson qui dit beaucoup ça, qui dit oui, nous avons pris peur, mais qui n'en aurait pas pris peur?
Allons.
Allons.
Parler des oiseaux qui se cassent la gueule, avant même qu'ils commencent à se casser la gueule à notre connaissance. Il a été beaucoup question de d'oiseaux mal barrés dans la discographie de Arlt. Et voilà, je crois que je crois que n'importe quel geste artistique aujourd'hui réclame de refonder un peu de joie au cœur même du désastre. Excusez-moi pour le, enfin passez-moi le caractère.
Grandiloquent,
prophétique à haut voltage, là, mais...
À quoi ça touche, la métamorphose, pour vous, Héloïse Decaze? Est-ce que ça touche à la voix? Est-ce que ça touche aux instruments que vous empruntez? Est-ce que ça touche à... Ça touche à quoi, pour ce disque-là?
Oui, peut-être plus au...
Bah,
à la place. À mes cheveux, oui. Non. J'ai toujours... Comment je vais répondre à cette question? Au fait d'avoir des instruments sous les doigts. Parce que je pense que j'ai toujours joué de la voix, mais aussi du geste. Mais c'est pas la toute première fois, parce que je jouais déjà un peu de concertina sur les précédents, de façon moins écrite. Et là, il y a eu tout un travail de composition, d'expérimentation. J'ai pris des décisions, j'ai fait des choix. C'était moins juste des gestes improvisés. Donc moi, ça a été surtout ça. Donc j'ai pas mal d'instruments sous les doigts. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'en avais fait l'expérience précédemment, surtout dans d'autres projets, mais que ça me... Je sais que beaucoup... J'ai parlé à pas mal de gens qui étaient plus des, on va dire, instrumentistes, et pour qui chanter, c'était le grand saut dans le vide.
Ah, oui.
Et moi, ça a été un peu... Je continue à chanter, mais ça a été tout le contraire. Je leur disais, quand je joue d'un instrument, c'est vraiment le moment où il y a quelque chose qui se révèle. Il y a quelque chose d'extrêmement intime. Il y a quelque chose que je donne. Il y a une prise de risque que je prends. Je sors complètement de mon espace de... C'est même plus qu'un espace de confort. J'avance avec une langue qui m'est étrangère, un peu comme quand on tente trois mots de portugais à Lisbonne et qu'on le fait très très mal et que d'ailleurs on ne nous comprend pas, à la place d'utiliser l'anglais, on va dire. Et voilà.
Et est-ce que ça change la manière de chanter?
Oui.
Est-ce que d'avancer comme ça, dans un risque, dans une forme de nudité ou d'une étrangeté, en faisant des choix, je trouve que c'est très important de dire ça, en faisant des choix avec des instruments dans les mains, est-ce que ça change votre façon de chanter?
Oui, je crois que ça crée une concentration qui fait que la voix arrive, mais pas... je sais pas très bien comment exprimer ça. Elle arrive, elle vit sa vie en fait. Moi, je suis concentrée sur ce que je fais, par exemple, au piano, et le chant, il est autonome. Ça fait longtemps qu'on marche un peu main dans la main, donc il connaît le chemin. Il y aurait quelque chose de cet ordre-là. Et donc moi, j'ai aussi été très surprise de choses qui sortaient de ma bouche. Je me disais, ah oui, tiens, ok, si tu veux. Moi, de toute façon, il faut que j'ai
pas combien à faire.
J'ai une bonne quarantaine de touches à gérer. Donc, vite à vie. Vite à vie, le chant.
Allons.
Allons. Bonsoir.
Il y a eu des surprises pour vous aussi, Sing Sing?
Dans ce que j'entendais autour de moi particulièrement, moi, il y a eu la surprise déjà d'avoir à jouer avec un percussionniste, parce que du coup... j'entends mon propre rythme, mais j'entends pas le sien. Je suis censé, quand tu joues avec un batteur, t'es censé jouer avec lui et pas attendre qu'il joue avec toi. Donc j'ai eu à me brider un peu. Ça, c'est une surprise pour moi. Et sinon, non, la surprise était vraiment dans je m'excuse d'insister là-dessus, mais dans ce collectif qu'il y avait autour de moi, plutôt que l'intimité, que le tête-à-tête. pendant des années, en fait, on a joué en tête-à-tête avec Héloïse, avec Moke, qui devait tenir la chandelle. Et là, là, on était vraiment une horde de petites teignes, de petits cancres là, marrants. Et c'était surprenant pour moi.
Il est certain que le langage enfantin pose ce problème. C'est-à-dire celui d'une parole que l'on pourrait appeler parole irresponsable. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a un certain nombre de dieux qui eux aussi, tous les dieux ont une enfance. Et au niveau de cette enfance, ils parlent souvent comme des enfants, c'est-à-dire de manière irréfléchie, mais comme ils sont dieux. Ce qui va arriver, c'est que leurs désirs se réalisent, comme d'ailleurs, vous savez, les enfants. C'est ce qu'on appelle, disons, la magie de la parole enfantine. Un enfant, il suffit qu'il parle pour s'imaginer que ce qu'il a dit a une efficacité directe sur un certain nombre d'événements. Un jeune dieu aussi. Et on a par exemple dans les évangiles apocryphes des descriptions très curieuses relatives à l'enfance du Christ. En tant que Christ, il est tout puissant. Bien. Autrement dit, ses souhaits se réalisent automatiquement. Il est même roi des enfants. Or, que se passe-t-il? Il est là au milieu de ses petits camarades. Ses camarades lui font par exemple une farce. Ils détruisent, il a fait un petit, comme les enfants font, hein, n'est-ce pas? Il a fait un petit barrage de terre. Un de ses camarades arrive et envoie un coup de pied. Lui, comme tous les enfants, dit « Ah, si tu pouvais mourir tout de suite. » Mais c'est que aussitôt l'enfant meurt. Donc, ce qu'il faut prouver là, c'est que d'une part, une parole, c'est tout puissant, surtout quand c'est le Dieu qui est la parole, bien entendu. Mais il ne faut pas manier la parole n'importe comment. Et il faut faire très attention, parce que quand les dieux sont enfantins, ils sont terribles. Mais heureusement, il y a quand même des dieux enfantins.
Ça veut dire quoi quand il meurt? Attends, là, j'ai même pas commencé.
Là, il n'y a pas de plan rouge.
Mais si, t'as vu tous les poissons qui m'ont dit? T'as vu tous les poissons qui avaient?
Mais c'est pas que le poisson, parce qu'il y a le bouchon qui se promène.
Là, il faut le ramener un peu, laisser la canne.
Mais j'ai pas de la profondeur. Et pourquoi il est trop mal?
Ce sont les œuvres de Lionel Marchetti qu'on écoute et réécoute dans cette émission, toujours avec joie. Et tout à l'heure, Claude Gagnebet, dans une archive de 1972, dire que les dieux enfantins nous révèlent à la dangerosité, à la responsabilité des paroles, qui activent, mais qui, heureusement, qu'il y a des dieux enfantins. Et on parlait de ne pas retrouver l'enfance, mais d'y être, de l'activer, de trouver en quoi... Je reviens finalement, parce que c'est assez frais et tellement puissant dans ma tête, ce que disait hier Nastassia Martin. Il s'agit pas de retrouver l'animisme, il s'agit juste d'activer l'animisme, de voir en quoi ça peut nous faire vivre au présent. Et là, on a l'impression, dans ce disque-là, Soleil enculé, que il s'agit pas de retrouver l'enfance, il s'agit juste d'y être, d'être dans un endroit-là. En quoi est-ce que ça bouge ou ça dit des choses de votre rapport à la parole? Pas au mot, mais à la parole.
Oui, la parole, je crois qu'effectivement, la parole, moi, je crois en l'efficace de la parole. Et je parlais de formule incantatoire,
oui, voilà,
tout
ça,
à l'heure.
Ouais.
Et que j'ai l'impression que le langage crée les choses. On parle des commencements dans le disque. Au commencement était le verbe. C'est quelque chose qui si Dieu est le... Alors, on a eu Moria qui est maintenant, il y a Sing Sing qui speak de parler de Dieu, attention. Mais si Dieu existe, il serait le verbe. Le verbe crée les choses. Dieu a créé les choses en les désignant, en les appelant. En français, c'est très beau d'ailleurs de dire appeler un chat un chat. Comme si avant de l'appeler un chat, le chat pouvait pas surgir. Donc effectivement, ça devrait être une responsabilité de prendre la parole, parce qu'elle peut produire les choses, faire en sorte que les choses adviennent. Et en même temps, de notre côté de la barrière, nous, artistes, cette irresponsabilité est souhaitable. Et parce que, comme élément de désordre, je pense que...
Entendu, c'est... mais c'est aussi une responsabilité qu'on peut entendre si on se dit que si elle est active, cette parole, alors elle met en circulation des images. Mmh. Et par exemple, vous le disiez tout à l'heure tous les deux, Soleil enculé, c'est une image où... le ciel bleu qui fait froid aux dents, c'est une image. Et dès lors, elle est effective, elle a une consistance. Et donc, du coup, elle est comme un caillou. Elle peut aller dans le monde, nouvellement. Mmh. Et donc, on peut, nous aussi, faire ce qu'on veut avec, s'en emparer. Et ça, c'est quand même une responsabilité quand, de l'autre côté de la barrière, pour reprendre vos mots, Sing Sing, on fait circuler d'autres choses. Mmh. Il y a plein de paroles aujourd'hui qui font circuler plein de choses. Du vide, de la violence, du vide. Donc quand on fait circuler d'autres images consistantes et joyeuses, et ben ça confère une responsabilité.
C'est sûr. Mais je crois que c'est pas au moment où on les profère. Après, il y a le moment où on les rend, où on les lance dans le monde, justement. Le moment où on les profère, c'est un moment d'irresponsabilité. Le moment d'écriture. Je pense que celui-là est une... Mais alors j'en profite parce qu'on écoutait Claude Guignobé parce que ça me permet de dire que tout ce disque est aussi travaillé, d'ailleurs tous les disques de Harls, mais celui-là plus que jamais, par une vision carnavalesque du monde, c'est-à-dire de renversement, le temps réversible, de renversement de cul par-dessus tête, qui est un déchaînement de... Bon, en l'occurrence, là, est très doux le déchaînement, mais un déchaînement de désordre, de force du désordre, de technique pour arriver au désordre, qui sont censés, qui sont supposés remettre les choses à l'endroit après.
C'est marrant, moi je me suis dit, écoutez, un nouveau disque de Harls, ça me remet d'aplomb.
Eh ben voilà, mais c'est bien ce que...
C'est bien ce qu'on a envie.
C'est le retournement, c'est nous qui le vivons, en fait, pour... tant mieux si ça remet l'auditeur d'aplomb. Enfin, on n'a pas écrit ce disque pour vous remettre d'aplomb particulièrement, hein, mais tant
ça
mieux.
Ça peut être d'aplomb cul par-dessus tête.
Ah, complètement. Ouais, complètement. Ah oui, non, mais j'ai pas dit d'aplomb droit dans mes rails, hein. J'ai dit, tiens, ça me rappelle, quoi.
Génial. Vous pouviez pas nous faire plus plaisir.
On va chez Flaubert.
Cette cloche que vous entendez, qui est actionnée fébrilement par Monsieur Dubuc, président des Amis de Flaubert, cette cloche est une pièce de musée. Et je me retourne maintenant vers le gardien de ce musée Flaubert, Monsieur Auguste Désert. Cette cloche a appartenu à Flaubert.
Oui, exactement, monsieur. Cette cloche était à la maison d'habitation de la famille de Flaubert.
Et pourquoi est-ce que nous l'avons placée alors maintenant ici au pavillon?
C'est-à-dire que voilà, n'est-ce pas, quand la maison a été détruite exactement 2 ans après la mort de Gustave Flaubert, nous l'avons enlevée de cette maison pour la mettre au petit pavillon, seul vestige qui existe encore de la propriété de Flaubert.
Donc, en fait, la propriété de Flaubert était beaucoup plus importante Exactement. Que l'endroit où nous sommes.
Exactement, monsieur.
Elle devait couvrir une grande superficie le long de la Seine.
Oui, environ 200 mètres, exactement.
Environ 200 mètres. Cette allée de tilleuls qui est juste à côté du pavillon de Croisset, je crois qu'elle porte un nom et que Flaubert l'a utilisée.
C'est ça, ce que nous appelons exactement son gueuloir.
Son gueuloir.
C'est-à-dire que c'est un endroit, n'est-ce pas, où Gustave Flaubert aimait beaucoup se promener, tout en récitant ses vers, n'est-ce pas, pour voir si ceci résonnait très bien et par la suite écrire.
Ils étaient 100, 200, 300 les merles. Debout sur les anémones, qu'en se couchant le soleil ensanglantait. J'avions 4 ans, j'avions 6 ans, je gueulions le soleil enculé. C'était gueuloir de joie que de gueuloir ça. Dieu sait, penses-tu encore à nous? Y penses-tu beaucoup, mon vieux? Au crépuscule. encore à nous. Y penses-tu beaucoup, mon vieux, mon gros crépuscule?
On va profiter que cette chanson continue encore un petit peu pour, je sais pas, ou bien dire un mot de la fin rapport à cette merveilleuse archive qui nous emmenait du côté du gueuloir de Flaubert, ou bien ne rien dire du tout, c'est comme vous voulez.
Que dire sur le gueuloir?
Que c'était gueuloir de joie.
C'était des gueuloirs de joie. Et, bah, c'est ce qu'on... Oui, ça boucle le truc, c'est que depuis le début, tu vois, soleil enculé, c'est une insulte transformée encore une fois en profération de joie. Et voilà. Et le gueuloir de Flaubert s'est métamorphosé en verbe. C'est-à-dire que celui-là, c'est plus un espace, mais c'est un verbe. Voilà.
Héloïse, maintenant que votre micro est complètement devenu horizontal.
Oui, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué.
Mais du coup, ça vous oblige à être. Ça vous oblige à danser.
Oui, je travaille mes torsions.
Voilà.
Un mot de la fin?
Oui, voilà. Si vous avez envie, c'est le mot de la fin.
Bonsoir.
Bonsoir Héloïse de Caz, merci beaucoup. Bonsoir Sing Sing, merci. Bonsoir. À vous.
Merci.
C'est un disque vraiment très très beau, Soleil enculé, qui est donc paru chez Muraille Musique et Objet Disque. Vous serez en concert le 21 novembre à Nantes, le 27 novembre à Lille, le 28 novembre à Paris, au Petit Bain, le 5 décembre à Paris, en première partie de Bertrand Belin au Casino de Paris. Vous serez aussi le 29 novembre à Grand Zéro à Lyon pour fêter leurs 15 ans et en première partie de la Grande Brigitte Fontaine à Laval. Ce sera le 13 décembre. À la prise de son, c'était Olivier Dupré ce soir. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Isor, Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Léos, Marianne Chassor et Lucie Riandet. C'est aussi une page sur franceculture.fr. Et un podcast via toutes les bonnes applications. Tout bientôt, 22h sur France Culture. Très belle soirée à vous.
C'est déjà 16h, bientôt 17h, et le ciel est temps.